De retour avec Élisane Pellerin. Bonjour Élisane.
Bonjour.
On fait une fois de plus le tour du monde, puis avec une perspective d'accessibilité. Et la première nouvelle nous vient du Royaume-Uni.
Oui, au Royaume-Uni, on a une première ambassadrice aveugle.
Oh!
Donc, avec son chien guide Otto, qui va se rendre donc en Slovénie, en août, pour aller représenter donc le Royaume-Uni, donc une diplomate, en fait.
C'est la première diplomate. À titre d'ambassadrice, ça veut dire qu'elle est... Il est au top de la pyramide,
oui.
Là, dans la délégation.
Oui. Et donc, voilà, elle va aller représenter le Royaume-Uni en Slovénie, en nous. C'est la première fois, donc, qu'une personne totalement aveugle va avoir accès, justement, à ce niveau de haute diplomatie, donc, comme ambassadrice. C'est Mme Victoria Harrison qui va prendre ce poste-là en nous. Et c'est une première parce qu'évidemment, là, une personne qui est totalement aveugle a quand même besoin de certaines adaptations et donc ça n'avait jamais été fait avant aujourd'hui. Mais le fait que ce soit maintenant chose faite, donc elle va prendre un poste au niveau au mois d'août, ça va ouvrir des portes là, pour
tout
les prochaines diplomaties. Et puis, bon, le fait qu'elle voyage aussi avec son chien d'assistance.
Ça aussi, ça va peut-être obliger la Slovénie à s'adapter. Je ne connais pas les conditions d'accessibilité en Slovénie, mais...
Je ne les connais pas non plus, mais j'imagine qu'il doit y avoir un peu de travail à faire, comme partout, hein?
Oui, tout à fait.
Parce qu'ici aussi, on a un petit peu de travail à faire.
Oui, on n'y échappe pas. On peut penser, parce que quand on pense à une ambassade, on voit un édifice souvent très joli, pittoresque, mais un peu vieillot.
Oui.
Alors, peut-être que...
C'est pas toujours adapté. J'en ai fait quelques-unes, c'est pas toujours adapté.
Exact. Puis, quand on est ambassadeur, on a affaire à discuter avec des gens, puis à les convaincre, puis... Et là, on peut penser que face à une personne handicapée visuelle, peut-être que les Slovènes vont se donner des petits coups de coude, là, puis
oui.
Ils vont essayer de faire... Mais la Slovénie, ça paraît pas, c'est un petit pays, mais de point de vue géopolitique, là...
Ils s'en passent des choses.
Avec ce qui se passe en Ukraine...
Oui, ils s'en passent des choses.
À leur porte, là, c'est important d'avoir leur soutien. De politique internationale, on fait un saut en littérature.
Oui, on fait un saut en littérature... Il y a un premier prix littéraire jeunesse sur le handicap qui va être mis, qui va ouvrir en fait. Donc ça s'appelle les Petites Cuillères. C'est l'association anti-féministe et dévaliseuse qui ont dévoilé au début du mois d'avril qu'il y aura un prix littéraire pour les personnes, pour la littérature jeunesse sur les personnes en situation de handicap. Donc, en fait, il va falloir soumettre des œuvres dans lesquelles il y a au moins un personnage qui vit avec une situation de handicap au sens large, c'est-à-dire que ça peut être une personne âgée, par exemple, ou une personne qui va être de corpulence un peu plus élevée, donc qui va souffrir de grossophobie, par exemple, autour d'elle.
Oui, qui peut être une autre forme d'exclusion sociale.
Oui,
là,
et de discrimination.
Exact, ou même des fois les lieux physiques ne sont pas adéquatement pensés. Les jurys vont être des enfants de 8 à 15 ans.
Oui, les jurys vont être des enfants, des adolescents de 8 à 15 ans. Donc ça aussi, c'est intéressant, François, parce que justement, évidemment, ces jeunes-là vont être appelés à lire plusieurs livres.
Oui.
Qui présentent des personnes en situation de handicap, et on le sait, là, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les livres qu'on fait lire aux enfants de cet âge-là. Donc, ça va leur permettre de les mettre en contact avec un handicap de façon ludique, bien sûr, et évidemment, ils vont pouvoir voter pour leur préféré et donc attribuer le prix. Les écoles peuvent s'inscrire, c'est en France, ça, par contre, c'est pas ici. Par contre, je voulais vous en parler parce que je trouve quand même que c'est une bonne initiative. C'est
tout
quelque chose
fait.
Qu'on pourrait répliquer ici. Ça permet à des enfants d'avoir contact avec un handicap. Ça permet aussi à des auteurs, à des autrices de se faire connaître et à des gens, justement, des auteurs, des autrices qui pourraient avoir un intérêt pour parler du handicap, de pouvoir le faire dans un cadre... Ou c'est
pédagogique.
Pédagogique, ouais. Ou c'est ludique, pédagogique. Et donc, je pense que c'est une bonne idée et qu'on pourrait faire un peu la même chose ici.
Ben, ça va certainement nous donner une liste de lectures. Hein. Ça va être intéressant de retrouver les titres des auteurs, les autrices et les titres des œuvres qui vont être en candidature. Et peut-être, comme c'est en France, ben, ça va être facile à transporter ici. Donc, c'est l'association anti-féministes qui s'appellent les dévalideuses, hein, et non pas les dévalideuses. Dévalideuses, c'est amusant comme nom. Les petites cuillères, ce nom vient d'une référence à une théorie des cuillères d'une autrice et blogueuse américaine, Christine Miserandino, qui ça illustre un peu le fait que les personnes en situation de handicap, parfois, ont des réserves d'énergie qui sont taxées. Hein,
oui,
parce que
qui peuvent différer d'une personne à l'autre parce qu'un handicap peut demander plus d'énergie pour les tâches quotidiennes, d'autant plus quand c'est mal adapté, évidemment.
Oui, ben voilà, on passe, comme on dit, on passe notre vie à faire attention.
Oui.
C'est fatigant à faire attention tout le temps. Santé, là aussi, il y a peut-être une avancée intéressante et un rapprochement à faire.
Oui, il y a une avancée donc au niveau des recherches qui suggèrent que des médicaments courants contre le VIH, donc le virus qui cause le sida, pourraient réduire le risque de maladie d'Alzheimer.
Oh!
C'est une étude qui a analysé 225 000 patients, donc c'est quand même une étude à grand déploiement. Et des chercheurs de Sanford Burnham Prebys ont découvert des liens positifs entre certains médicaments anti-VIH et la maladie d'Alzheimer. On parle donc aux États-Unis, ça a été dirigé par Gerald Schum, qui est un docteur, en fait, et ça a été publié dans la revue Médicaments.
Mais, et ça, c'est intéressant parce que pendant les années 80-90, le VIH était, encore aujourd'hui, est une vague mortelle qui a déferlé sur la population dans le monde. Aujourd'hui, c'est mieux contrôlé.
C'est mieux contrôlé, effectivement.
Mais avec le vieillissement de la population, aujourd'hui, c'est comme l'Alzheimer qui arrive en première page.
On pourrait quand même recycler certains médicaments qu'on utilise moins. Encore, faut-il préciser que quand même, dans certains pays, la lutte contre le VIH est encore quelque chose de très, très d'actualité. Mais ici, on en parle un peu moins. Et effectivement, là, au niveau de l'Alzheimer, il y a beaucoup, beaucoup de cas d'Alzheimer qui sont détectés. Il y en a de plus en plus. Et effectivement, trouver des médications qui peuvent, à tout le moins, réduire les symptômes ou empêcher une dégénération trop rapide, ça pourrait effectivement aider beaucoup de gens. Évidemment, là, c'est un tout début. Hein. On a vu une certaine corrélation.
Oui, voilà, corrélation et causalité sont deux choses.
Oui, voilà, on a vu une certaine corrélation et donc il faut approfondir les recherches. Monsieur Sean lui-même, qui est le médecin en charge, nous dit de ne pas s'alarmer avec ça, qu'on a encore beaucoup de recherches à faire. Par contre, effectivement, les recherches vont être poussées tant au niveau de Monsieur Chung et de ses collègues qu'au niveau de d'autres chercheurs. Et donc, dans les prochaines années, on pourrait à des résultats significatifs.
Ben, oui, en fait, la façon que ça a été mené, c'est qu'ils ont pris littéralement des centaines de milliers de dossiers d'assurance et ils se sont aperçus que les personnes les personnes vivantes séropositives auxquelles on prescrivait des types de médicaments, à la longue, déclaraient beaucoup moins de cas d'Alzheimer. En fait, les personnes vivantes séropositives, il y avait 2,4% de diagnostic d'Alzheimer quand il dépassait l'âge de 65 ans, 2,4 pardon, par 1000 personnes, alors que les personnes séropositives prenant ces inhibiteurs, et alors que la population en général, le taux de prévalence était de 6,1% par 1000, alors 6,1 par 1000, donc les personnes qui prennent des inhibiteurs parce qu'ils sont séropositifs ont deux fois moins de chances de développer de l'Alzheimer il y a une corrélation.
Il y a une corrélation,
voilà. Deux pour un, semble-t-il, dans la population sur un très grand échantillon.
Alors, encore faut-il creuser pour voir exactement ce qui se passe et trouver quel ingrédient fait effet et tout ça. Donc, on commence les recherches et je ne suis pas médecin, c'est moi qui va vous expliquer plus en profondeur. Mais
peut-être que ça va revenir avec une chronique avec notre ami Philippe Ducharme.
Oui, on a parlera avec Philippe Ducharme, qui doit être
tout
beaucoup
à fait.
Mieux que moi pour expliquer ça, mais c'est à suivre.
Exact. Le handicap, les associations en France fustigent les organismes publics.
Oui, bien, pour faire changement, en fait, il y a le Conseil de l'Europe et puis la France pour violation des droits des personnes en situation de handicap. Plusieurs associations de défense des droits humains ont dénoncé mercredi, donc le 17 avril, l'inaction du gouvernement français pour faire respecter les droits de la personne. Donc, malgré toutes les belles promesses qu'on a faites, les avancées sont très peu visibles sur le terrain et voilà que les associations perdent patience.
Oui, bien, c'est ça. L'année dernière, ils ont été épinglés par le Conseil de l'Europe. Président Macron promet 1,5 milliard d'euros à l'accessibilité et tout ça. Et puis, ben, oups, maintenant, on s'aperçoit que cet argent-là, où est-il? Comment a-t-il été dépensé? On va s'en reparler juste après la pause, parce qu'il va être question encore de Paralympique.
De Paralympique, voilà.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour avec Élisane Pellerin. Oui, on faisait une blague avant la pause, Élisane. C'est vrai qu'on parle des Paralympiques chaque semaine.
On en parle beaucoup ces jours-ci, mais à notre défense, ça sent bien, François, et donc il faut en parler.
Oui.
C'est beaucoup en lien, évidemment, avec l'accessibilité, parce que, sans surprise, François, la France ne sera pas prête au niveau de l'accessibilité. Paris ne sera pas assez accessible.
On peut dire qu'ici, à la revue de presse, on l'avait vu venir.
Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous en doutiez, François, ou si je vous surprends.
Non, pas vraiment. C'est vrai qu'on a lu, pour nos auditeurs, des nouvelles au cours des derniers mois où à chaque fois, le délai semblait de plus en plus serré.
Voilà.
Bon, ben on est rendu au point où le président Emmanuel Macron reconnaît un échec.
Reconnaît qu'au niveau du métro parisien, ce ne sera pas adapté pour les Jeux olympiques, malgré le fait qu'on voulait adapter beaucoup plus de stations. En ce moment, il y a seulement la ligne 14 qui est entièrement adaptée. Donc, effectivement, là, François Macron est obligé de reconnaître que c'est un échec. On est à près de 100 jours du lancement de Paris 2024 et il y a seulement, donc je le dis, une ligne d'accessible, alors qu'il va y avoir évidemment plusieurs milliers de personnes en situation de handicap dans la ville de Paris. Après, François Macron nous dit qu'il va y avoir quand même des plans B qui vont être mis en place, entre autres.
C'est ça. Il parle de des voies de contournement, par exemple. La mise en place d'un millier de taxis adaptés.
Oui.
Ça me semble... là aussi, j'ai un peu de misère, parce que prendre un millier de taxis, puis de les adapter, puis de les mettre en circulation...
On n'a peut-être pas la même vision de ce qui est adapté, François.
Non, oui. Bien, il y a ça. Je ne sais pas si combien de taxis adaptés qui existent déjà, mais s'il s'impose d'adapter 1000 véhicules très vite et de former tout le monde, moi, j'ai des doutes. Bon, la ligne 14, mais ça suppose qu'il y a au moins 13 autres lignes. Hein?
Oui, minimalement.
Minimalement.
Et effectivement, ils ne sont pas toutes adaptées. Et malgré le fait qu'on continue les efforts, parce qu'il nous reste 100 jours, adapter une ligne de métro, c'est très long. Hein? Ça prend quand même des infrastructures, des changements au niveau des infrastructures qui sont majeurs. On n'y arrivera pas, François, mais comme on l'a dit, on n'est pas nécessairement particulièrement surpris. C'est toujours un peu comme ça, hein. On fait des efforts et on voit grand et finalement on se rend compte qu'on prend du retard et que ses coûts sont plus élevés que prévu et on a toutes sortes d'urgences à régler et finalement on n'y arrive pas.
Ben oui, puis évidemment, la ligne 14, c'est celle qui amène directement dans la région parisienne au nord où il y aura le plus de compétitions qui vont se dérouler. Mais tout de même, avec les Paralympiques, ce sont des milliers d'athlètes qui vont être en situation de handicap et évidemment aussi des milliers de spectateurs,
de
touristes.
Exact. Également.
Ça, c'est énorme. On assure que les tramways, les autobus seront adaptés, mais il va y avoir des maillons de la chaîne qui vont manquer. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de réaliser des grandes choses. Quand il y avait eu l'incendie qui avait détruit toute la toiture et la flèche de Notre-Dame de Paris, le président Macron avait promis que Notre-Dame serait réparée en 5 ans et semble-t-il que la promesse va avoir été tenue.
Est-ce que je dois commenter là-dessus, François? C'est juste au niveau des priorités. Hein? Des fois, les priorités ne sont pas les mêmes.
Voilà. Ben,
au niveau
c'est
de
ça.
La cathédrale, on avait vu que les gens avaient été dévastés. Ça avait donné énormément d'argent.
Oui.
Et j'enlève rien à la cathédrale, qui est très belle, que j'aime beaucoup. Mais on dirait que les gens sont beaucoup moins portés à
aider leur prochain.
S'insurger pour les personnes en situation de handicap.
Oui,
mais bon,
oui.
C'est
vrai. Quand Notre-Dame de Paris a envoyé les photos, là, c'était les images de l'incendie. C'était terrible. Il y a de l'argent qui a afflué partout dans
oui,
le monde.
Oui, et pourtant, dois-je vous dire qu'un peu partout dans le monde, il y a des choses bien pires que la cathédrale qui brûle et on s'en fait pas trop.
Ah, ça, c'est voilà.
Tu as dit, j'aime beaucoup la cathédrale, j'ai rien
ouais,
contre la cathédrale.
Ben, c'est super, puis on est très content qu'elle soit rebâtie en 5 ans.
Tout à fait.
Mais voilà, enfin. Parlant de Jeux paralympiques
oui.
ici au Canada.
On va avec une bonne nouvelle, François, parce qu'effectivement, tout n'est pas noir au niveau des Jeux paralympiques. Au niveau du Canada, donc le Comité olympique canadien a présenté mardi dernier les vêtements que porteront les athlètes du pays aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques de Paris. C'est avec une collaboration de Lululemon,
qui est un spécialiste des vêtements de yoga,
oui.
qui est une compagnie canadienne.
Oui. Et donc, ça fait quand même quelques années qu'ils sont partenaires, mais là, cette année, on fait ça en grand. C'est eux qui ont fait le design des vêtements. Et les vêtements ont été pensés pour les athlètes qui ont des situations de handicap. On a même demandé leur avis à des athlètes qui sont en situation de handicap, ce qui est nouveau parce que généralement, on n'avait jamais fait ça, de demander leur avis à ces gens-là pour être sûr d'avoir un vêtement qui convienne à leur sport.
Exact.
C'est une belle avancée à ce niveau-là.
Oui, ben voilà. Alors, les athlètes paralympiques... ont été appelés, comme vous le dites, à contribuer pour voir ce que les vêtements soient adaptés, que les fermetures éclairs soient magnétiques plutôt que des petits zippers qui faillent
oui,
mettre
parce
un dans
que
l'autre.
Quand t'es quadriplégique, c'est difficile.
Ben, le petit bout qui rentre dans l'autre petit bout, là, puis qui faille tirer dessus, c'est pas évident.
Je peux en parler, c'est
ouais,
pas facile.
C'est un test chaque matin. Et puis, avec des fermetures éclairs magnétiques, des boucles pour tirer des repères tactiles pour faciliter l'utilisation. On se félicite. Et le résultat est spectaculaire.
Oui, ils sont très beaux.
On va ressortir de la parade, si je peux dire ça. Alors qu'une compagnie demande aux athlètes paralympiques leur opinion, ben ça, c'est très bien. La semaine dernière, on parlait de comment la recherche pour optimiser les performances des athlètes paralympiques pouvait plus tard...
aider à démocratiser la technologie pour que monsieur, madame, tout le monde en situation de handicap puisse
en profiter.
En bénéficier. C'est la même chose un peu au niveau des vêtements des athlètes. En fait, hein, ils vont être mis en vente. Donc, les personnes ne vont pouvoir les acheter qu'on soit en situation de handicap ou non. On va pouvoir avoir accès à ces vêtements-là, qui sont d'ailleurs très beaux. Et tant mieux si ça permet à des gens en situation de handicap d'avoir des vêtements qui répondent mieux à leurs besoins.
Exact. Et peut-être à d'autres fabricants de vêtements qui vont pouvoir adopter certaines techniques.
Oui, bien, j'imagine qu'effectivement, quand ils vont voir que ça marche bien et que les gens sont intéressés, il va y avoir d'autres compagnies qui vont peut-être abandonner le zipper traditionnel qu'on n'aime vraiment pas. Bon,
on n'aime pas le zipper traditionnel.
Voilà.
Ça, je suis bien d'accord. Alors, voilà. On revient à un sujet qui est plus lourd, là, qui est
oui.
plus... mais qui, malheureusement, encore une fois,
on en parle. On en parle, hein. C'est ce que je me disais en faisant la revue de presse dans les derniers jours. C'est pas la première fois qu'on parle de ça. On parle de mammographie. Des femmes qui doivent faire des mammographies de contrôle qui sont refusées dans des cliniques parce que la clinique n'est pas bien adaptée ou l'appareil de mammographie ne serait pas bien adapté pour les personnes en fauteuil roulant.
Le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC, a fait effectivement une étude, un sondage. En fait, ils ont rejoint 50 cliniques pour leur demander si elles étaient capables de recevoir une femme en situation de handicap qui était en fauteuil. Et là-dessus, 24 ont refusé l'accès.
24 ont refusé l'accès parce qu'ils disaient effectivement ne pas être en mesure au niveau des équipements ou qu'ils disaient que leur personnel n'était pas adéquatement formé. Donc, effectivement, c'est alarmant quand on dit que les femmes doivent être dépistées pour éviter le nombre de cancers. Évidemment, quand une femme a un cancer, non seulement c'est un désastre pour elle et pour sa famille, bien sûr. Mais en plus, au niveau des coûts publics, effectivement, c'est un gros coût.
Oui.
Donc, on pourrait prévoir, on pourrait baisser les coûts au niveau de la santé publique en faisant de la prévention, mais
pour les personnes, plus tôt.
Les personnes en situation d'handicap se font refuser les mammographies. Et donc, c'est effectivement un cas évident de discrimination là, pour le Conseil pour la protection des maladies. Parce que on ne devrait pas se faire refuser des soins, évidemment, là, pour une situation d'handicap. Le ministère de la Santé et des services sociaux est au courant du problème et déplore le manque d'accès.
Mais c'est comme s'il n'y avait pas de, je dirais, une coercition suffisante. C'est comme si le ministère n'était pas capable de forcer les cliniques à faire les adaptations nécessaires pour qu'elles deviennent...
On dit qu'on va réagir, qu'on va mettre de la pression, mais est-ce que c'est une priorité? À vous de me le dire, François. Donc, il faut voir à long terme ce qui va être fait. Par contre, ce que la ministre nous dit, c'est qu'il est mammographie, les appareils de mammographie, donc, devraient être capables de se descendre suffisamment pour que les personnes en fauteuil roulant puissent recevoir la mammographie assise. Si les bras des fauteuils sont amovibles. Mm-hmm. Donc, elles ne voient pas où il y aurait un problème. Mais encore faut-il que les personnes dans les cliniques soient au courant de ça.
Oui, il y a aussi l'accès, en fait, au bâtiment lui-même, à l'immeuble en soi, parce que peut-être que la clinique est au troisième étage d'un immeuble qui n'est pas adapté.
On demande donc aux dames d'être debout, mais peut-être qu'il y a une autre solution. Mais voilà, encore faut-il être capable de bien former les femmes et les hommes qui travaillent dans ces cliniques-là. Et éventuellement, effectivement, vous le dites, François, d'éviter d'autres obstacles, parce que se rendre à la machine, c'est une chose, mais encore faut-il se rendre.
Oui, ben voilà. Alors, il y a toute la question du transport adapté, l'accessibilité de l'immeuble.
Ça, c'est autre chose, le transport adapté.
Parce que
pas
les 24 cliniques sur 50 qui ont refusé, ça ne veut pas dire que les 26 autres ont dit oui. Il y en a 18 qui ont accepté, il y en a 2 qui ont répondu peut-être, puis il y en a 6 qui n'ont jamais répondu à leur demande. Alors, ça, s'ils n'ont jamais répondu dans la demande, on peut presque les mettre dans le camp du non.
Hein? Oui, voilà.
Ça me semble être évident. Et c'est quand même... Et je pense que c'est en partie une question de mauvaise formation.
Oui.
Ils ne veulent pas s'embarrasser de faire quelque chose de compliqué quand, pendant le même laps de temps, ils peuvent faire 2 ou 3 mammographies moins compliquées.
Oui, voilà. Hein? Et je pense que c'est une question... C'est ça, il manque pas de clients. Donc, s'ils peuvent choisir les clients moins complexes et en faire plus, ils vont le faire.
Oui, voilà. Alors, peut-être que les moyens de pression utilisés par le ministère ne sont pas tout à fait les meilleurs. Ou peut-être faut-il penser à ce qu'ils aient plus de dents, hein, plus de mordants. On va penser aussi à la vie piétonne en parlant d'études chez Piéton Québec.
Oui, une étude, c'est Piéton Québec qui vient de sortir... et qui voit différents angles au niveau de la vie piétonnière, entre autres sur la sécurité des gens.
Oui.
Donc, 50% des piétons interrogés, entre autres, se sentaient en insécure face aux intersections d'artères majeures. Donc, ça veut dire, en fait, c'est que les piétons ont peur de traverser. Il y a effectivement eu quelques accidents extrêmement malheureux. Et on parle aussi qu'au niveau de l'environnement, donc, ce serait très, vraiment adapté aux piétons. Évidemment, particulièrement aux personnes qui sont en situation de handicap, qui pourraient prendre un peu plus de temps.
Ou les personnes âgées aussi, qui peuvent prendre du temps à traverser. Et c'est ça qu'il faut mentionner aussi pour rejoindre. Ça peut être des personnes qui n'ont pas de situation d'handicap, mais qui ont une poussette avec un jeune enfant.
Oui, aussi. Hein,
voilà, ça aussi. Ça... Et ce que l'étude de Piéton Québec met en lumière, c'est que et dans sur leur page web, on voit très bien les exemples dans différentes villes autour de la région de Montréal.
D'ailleurs.
Oui, tout à fait. Où on explique comment des carrefours avec des artères importantes ont été bien adaptés à relativement peu de frais et relativement simplement pour devenir beaucoup plus sécuritaire. Et les gens de ces quartiers-là ont été interrogés avant et après. Et on voit qu'il y a une grande amélioration. Ces résultats sont encourageants. Ils confirment que les villes détiennent le pouvoir d'action pour rendre les artères plus conviviales et plus sûres, sans nécessiter toujours de grands travaux d'aménagement, parce que c'est évidemment Je dirais la raison budgétaire est souvent la raison invoquée.
Oui.
Ça se comprend quand on a un budget à gérer. Certaines intersections, un quart des piétons disent ne pas respecter la signalisation pour leur propre sécurité. Et ça, c'est terrible parce qu'ils adoptent une stratégie pour traverser au moment qui leur semble le plus sécuritaire, ce qui veut dire souvent quand c'est pas le temps, mais ils jugent que c'est le moment, évitant les mouvements de virage des véhicules. Et là, ça suppose que le piéton est entièrement responsable de sa sécurité, comme si ce n'était pas le cas de tout le monde sur la route de veiller à la sécurité de
oui.
tout le monde.
Mais on parle quand même de mesures là, qui ont diminué de 31% les collisions
oui.
avec blessés ou les collisions mortelles. Donc,
exact.
C'est quand
ça
même
marche.
Quelque chose qui fonctionne bien.
Oui.
Et donc, c'est des toutes petites adaptations là, pour permettre aux automobilistes, en fait, d'être plus... De passer de façon plus sécuritaire et donc pour les piétons de moins être à risque.
Exactement. Mais je peux vous dire que pas loin de chez nous, il y avait comme des mesures près d'un parc où il y a beaucoup d'enfants, où il y avait des pancartes qui ont été simplement déplacées d'à peu près 50 pieds, là, puis ça fait toute une différence. Alors, des fois, c'est pas grand-chose. Et quand on parle de piétons et qu'on dit que ça marche, là, c'est pour faire un mauvais jeu de mots. On vient après la pause. Voilà, c'était « Jam aux fruits » de Michel Pagliaro. Hein? Ça, c'était il y a 51 ans, en 1973. Michel Pagliaro qui se produit encore un peu partout au Québec. Voilà, alors, il n'y a pas d'âge pour les rockers.
Les rockers ne vieillissent pas,
François. Oui, ben, en tout cas, ils continuent de jouer. Au Canada, Statistique Canada nous apprend que les personnes en situation de handicap sont, encore une fois, victimes plus que d'autres.
D'expulsion, effectivement, et avec la crise du logement, on est dans une situation difficile pour tout le monde, mais encore plus, on le disait dans les dernières semaines, ça aussi, François, on en parle beaucoup,
oui.
On l'a dit dans les dernières semaines, les personnes qui ont des situations de handicap sont d'autant plus victimes de la crise du logement, parce que c'est beaucoup plus difficile de se loger, et au niveau des expulsions, Statistique Canada nous sort donc des statistiques qui sont parlantes, des expulsions sans faute.
Oui.
Donc, c'est des expulsions où la personne n'a rien fait de mal.
Le locataire n'a pas mis le feu au rideau, là.
Non, mais qu'on veut faire des changements, des rénovations majeures, ou que le propriétaire emménage lui-même dans le logement, ou qu'une personne de sa famille emménage. Donc, des raisons pour lesquelles les personnes propriétaires ont le droit d'expulser quelqu'un sans faute. Mais ça arrive beaucoup plus souvent aux personnes en situation d'handicap.
Oui, ben oui, 28 % des personnes handicapées vivent avec un handicap. C'est selon les chiffres, c'est le double ou au moins 60 ou 70 % de plus que la population moyenne.
Oui, 28 % des personnes donc qui ont été évincées vivraient avec une situation d'handicap. Donc, effectivement, au moins le double.
Donc, il semble que les personnes en situation d'handicap, curieusement, sont deux fois plus susceptibles d'être expulsées.
C'est tout à fait curieux, François. C'est comme s'il y avait une certaine discrimination.
Ben voilà, qu'ils sont peut-être moins capables de se défendre, de faire valoir leurs droits. Peut-être habitent-ils ou elles dans ce logement depuis plus longtemps, que le loyer en deçà des prix du marché...
Oui, que ça dérange un peu le propriétaire de ne pas pouvoir augmenter le loyer comme il le voudrait, entre autres.
Ouais.
Mais c'est évidemment catastrophique dans l'optique où ces personnes-là, on l'a dit en plusieurs fois, s'il n'y a pas de logement pour les personnes qui n'ont pas d'handicap, qui n'arrivent pas à se loger, imaginez une personne qui a besoin de logement avec des adaptations particulières, à quel point ça ne se trouve pas.
Oui, là, la crise était déjà en place avant même que le logement au sens large... soit dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et ça nous amène à la nécessité de la société d'en faire davantage pour les personnes en situation d'handicap. Et dans le budget fédéral, il y avait quelque chose à ce sujet.
Oui, on va avoir une petite chronique budget fédéral, là, François, parce que les libéraux ont présenté donc la prestation pour personnes en situation d'handicap, ce qui irait, qui toucherait donc jusqu'à 600 000 Canadiens qui pourraient avoir accès à cette prestation-là.
Prestation.
Oui, prestation, voilà. Donc, on parle donc d'une prestation qui va être obtenue pour les gens qui ont accès au crédit d'impôt pour les personnes en situation d'handicap.
Ça nous aime, si je peux me permettre, ça nous rappelle qu'il est important de réclamer le crédit d'impôt.
Oui, voilà. Ça c'est François Fiscaliste qui vous parle.
Oui, c'est ça.
Mais effectivement, ça donne plusieurs avantages, ça donne droit à différents services et entre autres la nouvelle prestation canadienne qui est quand même une prestation qui va soutenir ce qui est fait par les provinces, donc ça ne vient pas supplier, ça ne vient que soutenir, mais le gouvernement Trudeau qui a été très clair, hein, les provinces n'en font pas assez pour les personnes en situation d'handicap et donc le gouvernement fédéral se doit de pallier.
C'est très inégal d'une province à l'autre, toutes sortes d'autres mesures. Également, la prestation fédérale pour personnes en situation d'handicap, on parle d'un maximum de 2 400 $ par année, ce qui est bien, mais ce n'est pas la mer à boire. Mais voilà, on estime que 41% des Canadiens à faible revenu sont handicapés. Hein? Alors, là, encore une fois, c'est plus que la moitié. Donc, il y a une prévalence des personnes handicapées au sein de la population à faible revenu. Et on peut croire que 1,5 million de personnes handicapées au Canada, si 41% de ce 1,5-là... Alors, 600 000 personnes qui bénéficieraient de cette prestation, c'est bien. Oui. On peut penser peut-être que la cible aurait pu être plus élevée. Nous aurons le plaisir, Élisane, dans quelques semaines, d'avoir ici à l'antenne Guillaume Parent, qui nous parlera plus en détail de cette prestation-là. Alors, c'est un dossier à suivre.
Par contre, effectivement, il y a un mouvement dans le handicap sans pauvreté reconnaît l'effort, mais comme vous le dites, François, ils disent que c'est insuffisant et donc qu'effectivement, il va falloir non seulement tenir la promesse pour la donner au complice, ce qui n'est pas encore fait, parce que des fois, il y a des petits ajustements qui sont faits par la suite, et également que ça change pas le monde là, d'avoir 2 400 $, que c'est pas suffisant, même si on... Ils reconnaissent qu'on commence à quelque part et que c'est déjà bien. Dans la même lignée, en fait, une nouvelle enquête révèle que 9 Canadiens sur 10 sont favorables à la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. Effectivement, bravo, mais qu'effectivement, ça dit aussi que ces personnes-là donc croient qu'on n'en fait pas assez pour les personnes en situation d'handicap. Et là, on va rejoindre toutes, que ce soit des gens qui votent libéraux ou non. On va rejoindre beaucoup de gens qui votent pour
toutes les allégeances. Toutes les allégeances politiques. Bravo, voilà.
Effectivement, on l'a dit, il y a plusieurs groupes qui défendent les droits des personnes en situation de handicap qui reconnaissent l'effort, mais qui soulignent que ce ne sera pas suffisant.
Encore tout à fait assez, mais enfin, c'est un pas dans la bonne direction. Moi, Lépinière et Motricité Québec, le mémo... nous invite à une conférence dans laquelle on abordera de toutes les problématiques et les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap en ce qui concerne les plaies de pression.
Oui, donc c'est mardi le 30 avril à 11h.
Ça, c'est mardi dans 8 jours?
Oui, c'est mardi prochain, donc. On parle de 245 rue Schumann, où on va pouvoir donc parier de ça. C'est évidemment un problème qui concerne les personnes en situation d'handicap qui sont alitées soit de façon permanente ou qui sont quand même souvent dans un lit ou assis. Parce qu'effectivement, les plaies de pression, un, ça fait mal, et deux, ça peut dégénérer au niveau médical. Donc, c'est quand même un problème qui peut être assez grave. Et donc, vous êtes invité par moi, Lépinière Motricité Québec, à vous présenter si cela vous intéresse. Et effectivement, c'est mardi prochain, donc dans 8 jours.
Bravo. En parlant d'activités à venir, les 8 et 9 mai, INCA, l'INCA, son hub mobile sera à Trois-Rivières. On se souvient qu'en fin février, c'était à Saint-Jérôme, mais là, ça va être à Trois-Rivières.
Oui, ça se déplace, ces gens-là. Donc maintenant, effectivement, on est à Trois-Rivières, à l'hôtel Travelodge, sur le boulevard Jen Ash Krueger, sur Ayassaille Lavioyette, et on a quand même... quelques activités diversifiées à vous offrir. Donc, entre autres, évidemment, les kiosques d'Éco seront là pour faire connaître les services et des produits adaptés du Centre Mieux Vivre. On parle aussi de programmes psychosociaux d'entraide.
Exact.
Et de différentes présentations, entre autres la présentation sur les applications téléphone intelligente par Lynn Dubé,
qui était ici ce matin.
Donc ça, c'est jeudi le 9 mai de 10h à 11h30. Également, un groupe de soutien pour la gestion du stress pour les personnes qui subissent une perte de vision. Et un atelier pour ouvrir des portes sur le marché du travail, jeudi 9 mai toujours, de 15h à 16h. Donc, c'est quand même assez diversifié. C'est donné par des gens qui sont extrêmement compétents. Et on vous invite, si cela vous intéresse, à téléphoner à ICA ou à aller sur le site Internet pour vous inscrire. Il va y avoir quelques petites collations, des gens bien sympathiques sur place.
Ben oui, parce qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille.
Ben
alors,
voilà.
Si on veut péréter, si on veut être bien attentif à tout ce qui va se passer. Donc, c'est mercredi le 8 mai en après-midi. Et jeudi le 9 mai. On reparlera la semaine prochaine des programmes pour les jeunes qui s'en viennent en mai et en juin. Ben voilà, pour nous, c'est tout pour tout de suite. Merci beaucoup, Élisane.
Merci beaucoup.
On remercie Claire Guérin à la recherche, grâce à qui on finit toujours par rejoindre des gens qu'on doit rejoindre. Bravo. Mathieu Tessier à la techno, qui sait comment se débrouiller dans des situations qui sont parfois un peu stressantes,
difficiles.
Bravo. Voilà. Et c'est François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine.